Bonjour. Je prends quelques minutes pour venir partager avec vous ce soir un message qui est sur mon cœur parce que je crois vraiment qu'il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu pour nous aider à faire le point dans notre vie. Dans la vie qu'on vit présentement, dans la vie nord-américaine, on est très occupé à courir après avoir une carrière, avoir des buts qui nous font atteindre comme un fonds de pension à l'aise, puis que on court toute notre vie à partir de notre jeunesse à aller à l'école, à apprendre à fonctionner, à avoir un métier, à ensuite gagner de l'argent, faire de l'overtime, du temps supplémentaire dans le but d'acquérir, puis on court après toutes sortes de biens pour notre confort, pour nos loisirs, pour nos activités. Tout cela, c'est beau, c'est le fun, ça nous donne du plaisir, ça nous donne un certain but à atteindre, sauf que est-ce qu'au bout de la ligne qu'on a réalisé vraiment pourquoi nous sommes sur la Terre? Avons-nous fait le point pour réaliser, y a-tu un créateur à quelque part qui voudrait me parler, qui voudrait me dire quelque chose, qui voudrait que je m'arrête à lui pour pouvoir le connaître, pour pouvoir connaître ce qu'il a à me dire et pouvoir développer une relation? La vie terrestre nous fait courir, surtout dans les contextes nord-américains, les contextes occidentaux, nous font courir à acquérir, à poursuivre comme les biens matériels, puis on le sait fort bien, que lorsque nous mourrons, nous n'emportons rien avec nous de tout ce qu'on aura accumulé. Puis la question que je me pose, ou que je dois me poser, ou que chaque personne sur la Terre doit se poser, servez-vous un Dieu? Est-ce que je suis en train de servir un Dieu? Si on continue la méditation avec qu'est-ce que le monde nous propose comme réponse, on regarde dans les cours à l'école, on extrait toute forme de religion, on extrait toute forme de pensée qui nous rapporterait à un Dieu, à un créateur, à une intelligence supérieure qui aurait volontairement créer toute chose. Puis là, on essaie de nous inculquer depuis une centaine d'années que ce serait la théorie de l'évolution, que en fin de compte, c'est pour nous expliquer qu'il n'y aura aucun Dieu, que tout sera matérialisé tout seul, qu'il y aura eu un Big Bang à quelque part, d'une matière quelconque qui existait tout seul, puis que tout aurait explosé, tout aurait été formé, un monde parfait où ce que la vie aurait pu y naître, puis avec tous les contextes de la vie nécessaire pour que la vie puisse prendre forme. Puis là, il y a eu comme une évolution des cellules, puis des molécules, puis ça nous amène à, au bout de la ligne, à avoir évolué en forme humaine. Puis là, on se retrouve comme parachuté à l'intérieur de cette vie, à l'intérieur d'un corps humain. Puis là, on se pose pas de questions qui nous a mis ici. On suit l'idée de qu'est-ce qu'on entend. Ah, c'est l'évolution, puis il n'y a pas de raison spéciale pour laquelle nous sommes au monde. On vit que pour le plaisir de vivre, puis on s'arrange pour pas se ramasser en prison, mais il faut s'arranger pour avoir le plus d'argent possible pour notre fonds de pension, puis avoir de quoi donner à nos enfants. Est-ce vraiment le but pour lequel nous avons été créés, ou est-ce vraiment le but pour lequel nous sommes sur cette planète? La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit lorsque nous sommes sans Dieu, cela nous fait errer comme sans espérance. C'est ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 12. Ça nous dit qu'avant de connaître le Christ, avant de connaître Dieu, le Créateur de toutes choses, révélé à travers Jésus-Christ, qu'on était dans ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, on était étranger aux alliances de la promesse que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. On était sans espérance et sans Dieu dans le monde. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que les gens qui vivent sans Dieu, qui sont comme à l'aveuglette dans ce monde, soit qu'ils croient pas qu'il existe un Dieu, ou soit qu'ils ignorent quel est le véritable Dieu. Les gens vivent sans Dieu, sont sans espérance, ils ont aucune raison d'espérer qu'il y aurait quelque chose d'autre après la mort, ou quelque chose d'autre à vivre dans cette vie autre que de poursuivre les richesses, poursuivre l'argent, essayer d'atteindre des buts personnels. Des buts personnels comme fixer des gros comptes de banque et ainsi de suite, puis à avoir tous les biens pour nos loisirs et nos activités. Nous sommes étrangers des promesses, nous ne connaissons pas les promesses. Lorsqu'on est sans Dieu, on est comme sans promesses, on vit comme étrangers de tout contact avec les gens de la foi, puis même parfois on cherche à fuir les gens de la foi, parce que ça nous fait comme, on peut se sentir jugé, on peut se sentir visé par les paroles que ces gens-là professent. Mais au bout de la ligne, nous sommes comme un animal qui vit, qui existe, qui meurt, puis que tout s'éteint là. Mais je ne crois pas que c'est vraiment le sens que le Créateur a voulu qu'on ait dans notre pensée. Le but de cette vie est d'apprendre à faire le point, là, à s'arrêter, puis à faire le point pour essayer de comprendre qui est le Dieu véritable, Créateur de toutes choses. Il est impossible, si on regarde aux valeurs scientifiques qui nous sont démontrées aujourd'hui, que nous sommes le fruit du hasard, que ça serait par chance. C'est une chance qu'on a eue que toutes les atomes, puis les molécules, puis les particules étaient placées de façon à nous favoriser la vie, puis tout est arrivé par hasard, sans aucune intervention d'une main extérieure ou comme d'une volonté suprême. Il est impossible que ce monde si parfait puisse tourner sans qu'il y ait eu un auteur pour cette création. Puis lorsque nous vivons, puis nous sommes à la poursuite des biens matériels, lorsque les gens ne voient pas une action immédiate, mettons conséquente au péché, il continue à ignorer Dieu. C'est comme si chaque fois que je pêche, chaque fois que je désobéis au Dieu créateur, puis que je ne vois pas d'action comme de jugement ou de punition sur mes péchés, quand je les vois pas instantanément, on est comme porté à penser que Dieu n'existe pas, puis que tout ce qui a été dit à propos du péché, c'est de la baliverne. Dans le psaume 104, le psaume 10, le verset 4 nous dit, « Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. La Bible elle nous dit que lorsqu'une personne se dit « Oh, mais j'ai pas été puni quand j'ai péché, j'ai pas reçu de châtiment de Dieu comme les autres le disent », ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est comme si les gens ignorent Dieu à cause qu'ils n'ont pas été frappés de la main de Dieu lorsqu'ils ont péché. Puis la Bible elle déclare que c'est les méchants qui disent ça avec arrogance, parce que les gens ne réalise pas la grandeur de la patience de Dieu. Comment est-ce que Dieu est patient envers nous, puis que Dieu use de patience dans le but qu'on se repente. Dieu veut pas frapper l'ensemble de l'humanité comme ça, à tout bout de champ, lorsqu'il nous arrive quelque chose, lorsqu'on pêche, puis lorsqu'on vit dans, on dit des choses qui sont péchées devant Dieu, ou qu'on fait des choses qui sont péchées devant Dieu. Dieu veut pas nous châtier à chaque fois qu'on en vit. Dieu veut plutôt qu'on apprenne à user notre intelligence, puis d'essayer de comprendre que même s'il ne punit pas, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Puis là, si on poursuit l'idée, à mesure que les gens vivent leur vie, puis ils ne voient jamais de jugement de Dieu, puis tout semble bien aller pour leur vie, là les gens se disent, il y a point de Dieu. Là, chacun marche selon ce qui leur semble bon. Dans Proverbe 14:12, ça nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Lorsqu'on avance dans nos pensées, dans nos idées, dans nos plans, dans nos objectifs, puis qu'on ignore Dieu, on pense que c'est correct, puis il n'y a pas de problème, puis on peut se permettre n'importe quoi. Puis en fin de compte, vu que j'ai jamais été puni par Dieu, il n'y a pas de danger de recevoir de jugement, Dieu n'existe pas. Fait que là, on s'en donne à cœur joie à avancer dans nos chemins qu'on pense qui est juste, on pense qui est correct, puis du moment qu'on soit pas arrêté par la police, on pense que tout est beau. Mais la Bible, elle nous dit, ça peut paraître droit à un homme, le chemin dans lequel il marche. Mais si c'est un chemin qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est la voie de la mort. Dieu est témoin, Dieu voit tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de faire, il est témoin de ce qu'on vit dans nos vies, il voit tout, il entend tout, puis il dit même dans sa parole qu'un jour, il va amener toute chose en jugement. Mais avant d'aller jusqu'au bout de dire « Oh, mais je dois attendre le jugement de Dieu pour voir si vraiment c'est vrai ou si c'est pas vrai », je dois me poser quand même les questions. Qui est l'auteur de cette création? Qui a créé toutes ces choses-là? Qui les a mises en place d'une manière parfaite afin que la vie puisse y être, puis se maintenir, puis de continuer? Ça fait des milliers d'années que l'histoire humaine se vit. Qui est l'auteur de cette création? Mais on peut aller lire un passage dans Isaïe, le chapitre 42, le verset 5. Puis c'est comme si c'est Dieu qui est en train de nous parler. Ça nous dit, « Ainsi par Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, et qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous dit clairement que le Dieu de la Bible, le Dieu révélé aux Juifs, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le grand Yahvé, le grand Adonai, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, il a créé les cieux, il a créé la terre, c'est lui qui a créé la vie, puis c'est lui qui a créé tout ce qui peuple la terre, toutes les espèces animales, végétales, oiseaux, poissons, humains. C'est Dieu qui a tout créé, c'est lui qui a permis que tout soit là, et c'est lui qui a donné le souffle à tous ceux qui y marchent. C'est Dieu, il y a un créateur qui est l'auteur de toute cette création. Puis la Bible nous dit, dans Isaïe 44, le verset 6, qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, vrai. Dans Isaïe 44, 6, ça nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Dans ce passage-là, c'est clair que le Dieu de la Bible se révèle comme étant un seul Dieu, créateur de toutes choses. Il est le début, il est la fin, et hors de lui, il n'y en a aucun autre. Comme qu'on voit aujourd'hui la multitude des religions qu'il y a à travers la planète, tous se disent « c'est le vrai Dieu ». Mais il est important que j'y aille lire la Bible et que je m'informe, est-ce que c'est vrai que les dieux qu'il y a sur la terre sont vrais? Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, puis c'est l'Éternel, le roi d'Israël, son Rédempteur, celui qui l'a sauvé, c'est l'Éternel des armées, puis il n'y en a pas d'autre que lui. Savez-vous que ce créateur-là, le Dieu de la Bible, se cherche des adorateurs? Ce Dieu-là se cherche des gens qui vont l'adorer, qui vont le servir. Dans Jean 4, 23, ça nous dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Voyez-vous, ce Créateur-là, le Dieu de la Bible, il est appelé le Père, il est celui qui a créé toutes choses. Se cherche des adorateurs, il cherche des vrais adorateurs, des gens qui veulent l'adorer en esprit, en vérité. Il est important qu'on réalise que notre vie n'est pas juste pour accumuler des biens ou accumuler de l'argent ou pour de vivre pour les plaisirs qui nous entourent. Ce Dieu créateur-là, le Dieu de la Bible, a créé toutes choses pour qu'on en jouisse, oui. Mais il a créé toutes choses pour qu'on apprenne à lui remercier, à le louer, à l'adorer, à le glorifier, à lui rendre la gloire comme étant le Dieu qui nous a permis de vivre sur cette terre et qui nous a donné toutes choses. Ce Créateur-là demande à ce qu'on... Il se cherche des gens qui veulent se prosterner devant lui, le prier, puis le louer, l'adorer, le remercier pour tout ce qu'il donne. Le fait d'ignorer Dieu puis de pas le prier, ça nous empêche de goûter sa présence. Puis nous subissons, en conséquence, nous subissons les conséquences de nos crimes. Dans Isaïe 64, 7, Il y a un passage qui nous est écrit comme suit. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » On se pose des questions. Pourquoi qu'il y a tant de souffrances dans le monde? Pourquoi qu'il y a tant de malheurs qui atteignent les gens? Même des enfants qui meurent de faim. Il y a des enfants qui meurent sans parents. Puis la méchanceté est étendue à travers la terre. Il y a des guerres, il y a des pestes, il y a des famines, il y a des maladies, il y a des souffrances. Il y a toutes sortes de fléaux qui se promènent présentement sur la terre. Puis là, on vit les conséquences du fait qu'on ignore le Créateur, qu'on ignore Dieu. Puis qu'on ignore Dieu, on veut pas le prier, on veut pas le louer, on veut pas l'adorer. Puis tout ça, ça nous empêche de goûter à sa présence. Puis nous subissons les conséquences de nos crimes. Tout ce qui se passe présentement sur la terre est pour conséquence du fait qu'on ignore Dieu puis qu'on tasse Dieu de nos vies. On veut vivre notre vie comme bon nous le semble, puis là on cherche à poursuivre à la richesse, la gloire ou rechercher les biens. Puis ça nous fait dépenser toute notre énergie et notre temps dans la poursuite de quelque chose qui va passer, puis qu'on ne gardera rien avec nous. Puis dans toute notre vie, on ignore Dieu. On se réveille pas pour s'attacher à lui. On est comme endormi dans cette vie, puis on n'est pas attaché. Non seulement on n'est pas attaché à Dieu, mais on l'ignore complètement. On est dans la misère. On vit des souffrances. On vit des combats. On vit des maladies. Puis on continue à ignorer Dieu parce qu'on sait comme si tout le monde dort présentement. Puis à cause de ça, à cause qu'on ignore Dieu, Dieu nous a caché sa face. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. Aussi, nous as-tu caché ta face. Dieu nous cache sa face, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés des exaucements de prière. Nous sommes privés de l'intervention de Dieu, de voir la main surnaturelle de Dieu venir nous toucher, puis venir agir dans notre vie pour la transformer, pour la changer, pour nous secourir, nous délivrer, nous guérir. À cause qu'on ignore Dieu puis qu'on ne l'invoque pas, Dieu nous cache sa face puis nous laisse périr par l'effet de nos crimes. Nos péchés qu'on commet, nos désobéissances qu'on commet envers ce Dieu-là, ça s'accumule. Dieu continue à nous cacher sa face, les malheurs nous atteignent, puis là, les souffrances, on passe à travers seul, parce qu'on ne voit pas Dieu, puis on goûte pas sa présence. Nous sommes séparés de la présence de Dieu. Puis encore plus que ça, les hommes méchants, les hommes incrédules, les hommes mauvais, continuent à ambitionner sur les autres, puis à frapper sur les autres, à voler les autres, puis à appauvrir les pays, puis là, à rendre les gens encore plus dans la souffrance, puis à leur empêcher d'obtenir les bénédictions de Dieu, la nourriture, puis le vêtement, puis les choses de base pour la vie. C'est pour ça qu'il y a les famines dans le monde. Les gens tassent Dieu de leur vie, ils ignorent Dieu, ils poursuivent à ramasser des biens et des richesses, puis ils écrasent leurs prochains, puis les empêchent de recevoir les bénédictions de Dieu. Fait qu'au bout de la ligne, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Le fait qu'on ignore Dieu nous fait goûter des conséquences de privation de sa présence. On le voit pas, Dieu, dans notre vie, puis on est comme laissé à nous-mêmes dans nos souffrances et dans nos misères. Pourtant, Dieu a élevé Jésus-Christ afin de nous donner une opportunité de nous repentir et à être pardonné. Dieu veut pas nous laisser dans l'ignorance, puis il veut pas nous laisser dans l'aveuglement, il veut pas nous laisser dans nos souffrances et dans nos péchés, il veut pas nous laisser périr, parce qu'on en a vu tantôt, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Dieu veut pas nous laisser périr. Dieu a envoyé son Fils unique, Yeshua, le Christ, le Messie, le Oint, le Sauveur. Il l'a envoyé mourir sur la croix pour payer pour la dette de nos péchés. Il l'a envoyé expier nos péchés. Dans Actes 5, 31, ça nous dit, Dieu l'a élevé, en parlant de Yeshua, Jésus-Christ, il l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu a élevé son Christ, son Messie, dans le but d'assurer, de donner une opportunité à tous de pouvoir se repentir, de pouvoir demander pardon, de pouvoir changer de vie, de pouvoir se détourner de notre mauvaise voie, de se détourner de notre chemin d'aveuglement, puis de se tourner vers lui, puis d'obtenir le pardon de nos péchés, afin que Dieu vienne nous secourir, vienne nous délivrer, vienne nous changer. À partir du moment qu'une personne réalise que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, à partir du moment qu'une personne réalise que Jésus a payé le prix pour qu'on puisse être sauvé, nous pouvons saisir cette promesse et l'être. Être pardonné, être purifié de nos péchés, recevoir l'Esprit Saint, et Dieu vient habiter en nous. Dieu prend toute la place en nous, et Dieu nous donne cette nouvelle vie gratuitement, et c'est quelque chose qu'on peut saisir par la foi. Dieu se cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité, puis c'est de tels adorateurs que le Père demande. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître, qu'on puisse le connaître personnellement, qu'on puisse le connaître intimement, qu'on puisse marcher en contact avec, marcher en communion avec, et de goûter sa gloire, de goûter ses bénédictions, de goûter tout ce qu'il a à faire dans notre vie pour nous changer, nous transformer, pour nous délivrer, pour nous guérir, puis de pourvoir à nos besoins. Dieu veut nous bénir en autant qu'on est prêt à confesser que Yeshua, Jésus-Christ, est le Messie, est le Seigneur, est le Tout-Puissant, puis il veut nous sauver. Dieu s'est révélé au travers de Yeshua, au travers de Jésus, afin qu'on le connaisse, qu'on connaisse le vrai Dieu et que nous le recevions. Dans 1 Jean 5, 20, ça nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. » En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous vous cherchez, vous marchez encore comme en tâtonnant, vous voyez pas encore profondément qui est ce Dieu-là qui nous appelle, qui nous a créés, qui a mis tout en place pour qu'on puisse obtenir la vie. On comprend pas tout ce qui se passe autour de nous, mais laissez-moi vous dire que la Bible nous l'a révélé. La parole de Dieu nous le révèle, que le Dieu le Père a envoyé son Fils venir mourir sur la croix, puis à cause de tout ce que Jésus nous a enseigné, on connaît le véritable. Puis quand on le reçoit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est une chose que Dieu veut que nous ayons, une communion intime et personnelle avec son Fils. Puis automatiquement, en recevant le Fils, vous obtenez la vie éternelle. C'est un cadeau. Dieu veut vous donner la vie éternelle gratuitement. C'est quelque chose que vous pouvez saisir par la foi. C'est ce que la Bible nous appelle encore à nous tourner vers lui. Dans Isaïe 1, 18, ça nous dit, « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Dieu nous garantit le pardon de nos péchés. Peu importe les péchés que tu as fait dans ta vie, peu importe la gravité de ces péchés-là, peu importe le nombre de tes péchés, si tu veux t'arrêter et discuter avec Dieu, ce Dieu-là, ce Dieu Tout-Puissant, il veut que tu t'arrêtes puis tu parles avec. Il veut que tu y avoues que t'es pécheur. Il veut que tu confesses tes péchés. Il veut que tu lui dises que tu veux abandonner cette vie-là de péché. Puis le Seigneur te dit, si même tes péchés seront rouges comme l'écarlate ou comme le pourpre, ils vont devenir blancs comme la neige, blancs comme la laine. Dieu va effacer tous tes péchés. Dieu a envoyé son Fils afin que son fils verse son sang pour payer pour les coupables. Le sang de son fils Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Tu es là, tu écoutes ce message, puis tu es touché par ce message, et tu réalises que tu ne sers aucun Dieu. Mais c'est le moment aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Yeshua et de pouvoir le recevoir comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, afin que tu sois pardonné de tes péchés et que tu puisses avoir la vie éternelle. Je vais faire une prière avec toi pour te donner l'occasion de le recevoir. Répète cette prière après moi. Père, je viens à toi, pécheur, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que mes péchés sont nombreux. Je reconnais que je marche sans Dieu et que je suis ignorant de qui tu es et qu'est-ce que tu nous as enseigné dans ta parole. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que Yeshua, Jésus, est le Seigneur et le Sauveur. Tu l'as envoyé pour mourir à ma place sur la croix, pour que son sang qui soit versé pour le pardon de mes péchés et me purifier de toutes mes iniquités. Je l'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir. Je veux devenir un adorateur. Je veux marcher en communion avec toi. Je la donne. Puis guide-moi par ton Saint-Esprit. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Puis sache qu'à cause de l'œuvre de Jésus, tu es pardonné. Dieu te pardonne, Dieu te purifie. Il t'a donné son Saint-Esprit, puis il y a une nouvelle vie qui commence. Reçois-le présentement. Puis garde-le par la foi. Marche avec ce Dieu-là. Sers le Dieu de la Bible. Deviens un adorateur du Dieu de la Bible. Lis la Bible. Cherche à la comprendre. Cherche à la connaître, la Bible. Va dans une église évangélique où ce que tu vas entendre les messages qui vont nourrir ta foi et qui vont te faire grandir spirituellement. Va sur mon site publication-évangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir puis à garder la foi et à persévérer jusqu'à la fin. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Puis, je te donne un rendez-vous pour les prochains messages que sur mon site. Ici Daniel Poulin qui vous dit que Dieu vous bénisse. Amen.